Les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
Ne tendez pas la main à n'importe qui. Pour une simple poignée de main, ou une simple, à la rigueur, cela peut ne pas avoir de conséquences terribles. Mais exhiber sa paume, celle de la main droite, en plus, non. On peut vous le déconseiller. Oscar Wilde aurait pu vous le déconseiller. Par chance, il ne l'a pas déconseillé à son personnage, Lord Arthur Saville, interprété pour la radio en 1959 par Jean Rochefort.
La radiodiffusion télévision française présente Un crime inéluctable. D'après le crime de Lord Arthur Saville, d'Oscar Wilde.
Chère Lady Windermere, permettez-moi de vous féliciter. Cette réception est un triomphe.
Vous êtes trop bon, Lord Marwell.
Non, non,
j'avoue pourtant que mes visiteurs m'ont particulièrement honoré ce soir et que ma vieille Bunting House a rarement connu une affluence aussi considérable.
Déjà minuit, Lady Edgar?
Est-ce possible?
Songez que la princesse est demeurée jusqu'à plus de 11h30.
Chut! Le virtuose hongrois va se faire entendre de nouveau.
Non, il ne jouera plus ce soir, je m'en félicite. Je déteste la musique hongroise.
Chère hôtesse, n'auriez-vous pas vu par hasard mon châle de dentelle et mon petit éventail en écailles de tortue?
À côté de vous, duchesse, sur le canapé.
Oh, mon Dieu, vous avez raison. Je suis si distraite, je perds toujours quelque chose.
Mais vous ne manquez jamais de le retrouver. À propos, duchesse, connaissez-vous mon Chiron ancien?
Votre quoi, Gladys?
Mon Chiron ancien, ma bonne. Je ne puis vivre sans lui maintenant.
Vous êtes toujours si originale, ma chère Gladys.
Il vient examiner ma main deux fois par semaine très régulièrement. Il y prend beaucoup d'intérêt. Il faut absolument que je vous le présente.
Me le présenter? Vous voulez dire qu'il est ici?
Naturellement, il est ici. Je ne puis songer à donner une soirée sans lui. Il affirme que j'ai une main purement psychique.
Ah, je vois. Il lit dans les lignes de la main et dit la bonne aventure.
Et la mauvaise aussi. Ainsi, l'année prochaine, par exemple, je courrai un grand danger, à la fois sur terre et sur mer. Tout ça est écrit sur mon petit doigt ou dans la paume de ma main, je ne sais plus au juste.
Oh, c'est effarant, Gladys. Que comptez-vous faire pour échapper à cette affreuse perspective?
Je vivrai en ballon. Et chaque soir, je ferai hisser mon dîner dans une corbeille. Si personne n'a l'obligeance d'aller chercher M. Podgers, je vais y aller moi-même.
Laissez-moi ce soin, je vous prie, Lady Windermere.
Mais Lord Arthur, vous ne l'avez jamais vu.
Je le reconnaîtrai tout de même.
Ah, certainement pas. Il n'a rien à première vue d'un Chiron ancien. C'est un petit homme gros, avec une tête comiquement chauve et des lunettes d'or. Il tient plutôt le milieu entre le médecin de famille et la tornadillage.
Cette fois, je le retrouverai. Je vous l'amène dans un instant.
Voyez-vous, duchesse, les gens sont terriblement ennuyeux. Tous mes pianistes ont exactement l'air de poètes. Et la saison dernière, j'avais invité à dîner un épouvantable conspirateur. Un homme qui avait fait sauter une foule de gens. Qui avait, disait-on, une cotte de maille et portait un poignard caché dans la manche de sa chemise. Eh bien, lorsqu'il est arrivé, il avait simplement la mine d'un bon vieux clergyman. Et il a plaisanté toute la soirée. Évidemment, il a été très amusant et tout ce que vous voudrez. Mais j'ai été horriblement déçue. Ah, voici M. Podgers. Bravo, Lord Arthur. Monsieur Podgers, je voudrais que vous lisiez dans les mains de la duchesse. Duchesse, enlevez votre gant. Non, pas le gauche, l'autre.
Vraiment, ma chère Gladys, je ne crois pas que ce soit tout à fait convenable.
Oh, mais jamais rien de ce qui est intéressant n'est convenable. Mais il faut que je vous présente. Voici Monsieur Podgers, mon chiromancien favori. Monsieur Podgers, la duchesse de Paisley. Et si vous affirmez qu'elle a un monde de la lune plus développé que le mien, je ne croirai plus jamais en vous.
Oh, je suis sûre, Gladys, qu'il n'y a rien de ce genre dans ma main.
Votre grâce est tout à fait dans le vrai. La montagne de la lune n'est pas très développée.
Ah.
Mais la ligne de vie est excellente.
Ah.
Veuillez avoir l'obligeance de fléchir le poignet.
Oui.
Merci. Vous vivrez jusqu'à un âge avancé, duchesse, et vous serez extrêmement heureuse.
Ah.
Ambition modérée, ligne de l'intelligence sans exagération, ligne du cœur...
Oui, oui, soyez indiscret, monsieur Podgers.
Rien ne me serait plus agréable si la duchesse avait quelquefois négligé la prudence. Mais j'ai le regret de dire que je vois une grande constance d'affection combiné avec un sentiment très fort du devoir.
Ah, monsieur Podgers, j'ose le dire, tout ceci me ressemble fort. Continuez.
Je constate enfin que l'économie n'est pas la moindre des vertus de votre grâce.
Oh, monsieur Podgers, vous êtes superbe. Vous avez admirablement décrit le caractère de ma chère duchesse.
Pensez-vous que monsieur Podgers accepterait de s'occuper de moi à présent?
Surtout oui, Lord Arthur. Mais je vous préviens, je dirai tout à Sibyl. Elle vient prendre le thé demain pour causer chapeau. Et si monsieur Podgers révèle que vous avez un mauvais caractère, ou une tendance à la goutte, ou que vous entretenez une danseuse rousse, je ne le lui laisserai pas ignorer.
Oh, je n'ai pas peur, Sibyl me connaît aussi bien que je la connais.
Oh, je suis navrée de vous l'entendre dire. La meilleure assise du mariage, à mon avis, c'est un malentendu mutuel. Monsieur Podgers, Lord Arthur Saville meurt d'envie que vous lisiez dans sa main. Ne nous dites pas que c'est un garçon d'une douceur exquise et scrupuleux comme un notaire honnête, chacun le sait. Mais révélez-nous plutôt quelque chose de tout à fait rare et de très favorable. Lord Arthur est l'un de mes plus chers favoris.
Voici ma main, monsieur Podgers.
Je vous remercie, votre honneur.
Eh bien, j'attends, monsieur Podgers.
Nous attendons tous.
Monsieur Podgers, hésiterait-il à nous avouer que vous serez un époux modèle, Lord Arthur?
Votre main gauche, je vous prie.
Enfin, monsieur Podgers, vous déciderez-vous?
C'est la main d'un charmant jeune homme.
Surtout, oui. Mais sera-t-il un mari charmant? Voilà ce que je veux savoir.
Moi, je ne pense pas qu'un mari doive être trop séduisant. C'est si dangereux.
Les époux ne sont jamais trop séduisants, ma chère amie. Croyez-en mon expérience. Je me suis mariée 3 fois. Monsieur Podgers, ce qu'il nous faut, ce sont des détails. Seuls les détails sont intéressants dans la vie. Que va-t-il arriver à Lord Arthur?
Eh bien, dans quelque temps, Lord Arthur fera un voyage.
Naturellement, son voyage de noces.
Et... il perdra un parent, un simple parent éloigné. C'est tout.
Je suis cruellement désappointée. Je n'aurai rien à révéler à Sibyl demain. Ah, maintenant, allons souper. Duchesse, je suis sûre que vous êtes très fatiguée.
Oh, nullement, chère Gladys. Je me suis beaucoup amusée. Et le chiromancier est tout à fait intéressant.
Monsieur Podgers.
Oui.
Une minute, je vous prie, j'ai à vous parler.
Mais Lady Windermere nous fait signe, Lord Arthur, et je...
Excusez-moi, mais j'insiste pour que vous donniez une réponse immédiate à la question que je vais vous poser.
Mais les dames n'aiment pas attendre votre grâce, et je crains...
Voici ma main, monsieur Podgers. Dites-moi ce que vous n'avez pas osé me dire tout à l'heure. Je veux connaître la vérité.
Qu'est-ce qui vous fait croire que j'ai vu dans votre main autre chose que ce que je vous ai dit?
Je n'ai pu me tromper. Vous étiez bouleversé. Dites-moi pourquoi. Je vous offre une somme de 100 livres...
Vous le voulez?
Je l'exige, monsieur Podgers. Que voyez-vous dans cette main?
Une mort. Lord Arthur, vous ferez mourir quelqu'un. Cette main est celle d'un assassin.
Assassin, 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 assassin.
Est-ce possible? Le mal était si loin de ma pensée. Ma vie s'annonçait si belle. Et Sibylle, le fiancé de Sibylle, assassin.
Sibylle Merton, souviens-toi, Lord Arthur, qu'elle était belle à ce bal de Lady Noël où tu l'as vue pour la première fois. Qu'elle était belle et fragile. Et pur. Tu l'aimes, Lord Arthur. Tu l'aimes de toutes tes forces. Et elle t'aime. Alors, aie pitié d'elle. Ne l'épouse pas avec cette fatalité suspendue sur ta tête. Débarrasse-toi de ton crime auparavant. Et que Sibylle ignore tout. Ne trahis pas l'amour de Sibylle Merton, Lord Arthur. Quel bonheur pourrait être le vôtre connaissant l'épouvantable prophétie écrite dans ta main. Retarde ton mariage, Lord Arthur. Là est ton devoir. Retarde ton mariage et obéis à ton destin. Alors seulement tu pourras remettre ta vie aux mains de la femme que tu aimes. Tu pourras la prendre dans tes bras, sachant qu'elle n'aura jamais à courber la tête sous la honte. Accomplis d'abord l'inéluctable, Lord Arthur. Ensuite, songe à ton bonheur.
Le bain est-il suffisamment chaud, votre honneur?
Parfait, James. Il est parfait. Passez-moi le savon, voulez-vous?
Voilà.
Merci. James, vous connaissez mieux que moi-même toute ma famille. Ne vous semble-t-il pas que le membre le plus âgé de cette famille ne soit autre que la chère vieille dame Lady Clementina Beauchamp qui habite Curzon Street?
C'est tout à fait mon avis, votre honneur.
J'adore Lady Clementina, James, et je lui rendrai visite demain. Autre question. Un de mes amis possède un grand chien de Norvège qui manifeste depuis quelques jours les symptômes de la rage. La pauvre bête a tenté par deux fois de mordre le cocher au gras de la jambe. Mon ami m'a chargé de lui trouver un poison violent capable de donner la mort au chien sans le faire souffrir. Cherchez dans ma bibliothèque s'il ne s'y trouve pas quelques traités concernant la science des poisons. Je consulterai l'ouvrage en prenant mon breakfast.
Oui.
Ah, James, ce bain me redonne goût à la vie. Il est quelquefois tellement agréable de vivre, ne croyez-vous pas? Commencez vite vos recherches, James. Je vous en prie.
J'ai reconnu votre voix, Lord Arthur. Entrez, mauvais sujet. prenez ce fauteuil et dites-moi pourquoi vous n'êtes pas venu me voir tous ces temps-ci.
Ma chère Lady Clem, je n'ai jamais un instant à moi.
Vous voulez dire, je suppose, que vous passez toutes vos journées avec la jolie Sybille Morton, votre fiancée, à courir les magasins et le soir venu à rêver au clair de lune.
Je n'ai pas vu Sybille depuis 24 heures, je vous assure. Autant que je sache, elle appartient entièrement à ses couturières.
Parbleu ! Et voilà la raison qui vous amène chez une vieille femme, laide comme moi. Les hommes ont fait des folies pour moi quand j'étais jeune. Et me voici, pauvre créature rhumatisante, avec un fou chignon et une mauvaise santé.
Je me sens tout prêt, Lady Clem, à faire moi-même des folies pour vous.
Vous êtes un polisson. J'avertirai Sybille.
Mais dites-moi ce que devient votre maladie d'estomac.
Les médecins sont des sots. Ils me ruinent et ne me guérissent pas.
Lady Clem, j'ai pensé à vous. Je vous apporte un remède. C'est une chose merveilleuse inventée par un Américain. Il faut me promettre de l'essayer. La voici.
Comment ? Dans cette délicieuse bonbonnière d'argent ? C'est un vrai cadeau, Arthur. Ah, voilà qui est gentil de votre part. Oh, j'aperçois dedans le fameux remède. Quelle jolie pilule ! On croirait un bonbon.
Ce bonbon, Lady Clem, renferme la drogue qui vous guérira.
Je vais la prendre immédiatement.
Dieu du ciel, Lady Clem, ne faites rien de semblable. Cela ne vous ferait aucun bien. Attendez d'avoir une crise et prenez-la à ce moment. Vous serez surprise du résultat.
Je voudrais la prendre maintenant. Je suis certaine que c'est délicieux. Je vous l'avouerai. Bien que je déteste les docteurs, j'adore les médicaments. Enfin, je la garderai jusqu'à ma prochaine crise.
Et quand pensez-vous qu'elle se produise ?
Pas avant une semaine, j'espère. Mais comme vous montrez de la sympathie aujourd'hui, Arthur.
Je voudrais tant que vous ne souffriez plus.
Oh, vraiment, l'influence de Sybille vous rend tout à fait aimable. Parlez-moi de cette chère enfant.
Pauvre Lady Clementina, c'était une si charmante vieille personne. Et je ne dis pas cela parce que je suis son avoué chargé de sa succession. Tous ses amis déplorent sa mort, je vous l'assure.
Il est vrai, Monsieur Mansfield. Pour ma part, je l'adorais. Ce qui me console un peu, c'est qu'elle soit morte si doucement. Le soir qui a précédé son décès, j'étais alors à Venise pour un court séjour. Lady Clementina apparaît-il charmée tout le monde par sa bonne humeur et son esprit. Mais elle s'est retirée assez tôt en se plaignant de sa terrible maladie d'estomac. On l'a trouvée morte au matin dans son lit, sans qu'elle parût avoir aucunement souffert. Enfin, puisqu'elle a tenu à me léguer ses biens par testament, continuons l'inventaire, voulez-vous, Monsieur Mansfield?
Mais certainement, votre honneur. J'achève la salle à manger.
Sybille !
Oui ?
En avez-vous terminé avec les bibelots du salon ? Que de fatigue je vous impose ! Me pardonnerez-vous un jour?
Tout de suite. Mais il est autre chose que je ne vous pardonnerai qu'à une date très précise, Arthur.
Et quelle est cette chose?
Votre départ subi pour Venise et le délai inexplicable que vous avez imposé avec tant de gravité à notre mariage. Savez-vous quand je vous pardonnerai?
Le plus tôt possible, je l'espère.
Le 7 juin prochain, très exactement, Arthur. Le 7 juin, date de notre mariage.
Mon cher Sybille, j'ai tellement hâte d'en arriver à ce jour.
Devinez, Arthur, ce que j'ai trouvé dans les tiroirs de la vieille dame.
Quelques colifichets de sa jeunesse, j'imagine.
Cette adorable petite bonbonnière en argent. N'est-ce pas jolie? Me la donnez-vous.
Mon Dieu, cette bonbonnière.
Vous la connaissez?
Oui, c'est moi-même qui l'avais offerte à la pauvre Lady Clem. Bien entendu, Sybille, prenez-la.
Je vous remercie, Arthur. Aurais-je aussi le bonbon? Je ne savais pas que Lady Clementina aimait les douceurs.
Un bonbon, chérie, que voulez-vous dire?
Il y en a un dedans, un seul. Il paraît vieux et gris. Mais qu'y a-t-il, Arthur? Comme vous pâlissez.
Je vous en supplie, jetez vite au feu cette horrible pilule. Ah, bravo. Je vous remercie.
Comme vous êtes impressionnable, Arthur. Vous devenez livide à cause d'un bonbon moisi que je n'étais même pas tentée de goûter.
Tout est à refaire, Lord Arthur. Lady Clementina est morte de sa mort naturelle. Ton poison n'a servi de rien. Et la prédiction n'est pas accomplie. Recommence, Lord Arthur. Il le faut.
Bonjour, Herr Winkenkopf.
Le comte Rouvalov, qui est de mes amis, m'a donné ce mot d'introduction. Et je suis très désireux d'avoir avec vous un entretien pour une question d'affaires. Je m'appelle Smith, Robert Smith, et j'ai besoin que vous me fournissiez une horloge explosive.
Enchanté de vous recevoir, Lord Arthur. Ne me regardez pas d'un air si alarmé. Je vous ai vu un soir chez Lady Windermere. J'espère que sa grâce est bien portante.
Très bien, je vous remercie.
Les horloges à exploseurs ne sont pas de très bons articles d'exportation, même lorsqu'on réussit à les faire passer par la douane, car le service des trains est si irrégulier qu'elles explosent d'ordinaire avant d'être arrivées à destination. Mais si vous avez besoin d'un de ces engins pour un usage intérieur, je puis vous fournir un excellent article. Faites-moi confiance, Lord Arthur Saville. Je suis le fournisseur attitré de tous les jeunes révolutionnaires et agents nihilistes d'Europe. Puis-je, cependant, vous demander à quel usage vous destinez cette horloge?
Je la destine au plus âgé de mes parents éloignés, le vieux doyen de Chichester, qui raffole des horloges. Ceci doit rester entre nous, évidemment. Il a fallu me résoudre à faire sauter le doyen de Chichester.
Il s'agit donc d'une affaire tout à fait personnelle.
Tout à fait.
Je vais vous montrer mes horloges. Dommage pourtant que vous ne soyez pas décidé pour un baromètre. Nous venons d'en envoyer un merveilleux au gouverneur d'Odessa. Le gouverneur sautera dans 10 jours, si tout marche bien, à 00h43. Ah, il nous est arrivé aussi un parapluie de Genève. C'est le dernier mot des inventeurs. Ce parapluie éclate aussitôt qu'on l'ouvre.
Tout ceci est fort séduisant, Herr Rückenkopf, mais... une horloge fera davantage plaisir au doyen de Chichester.
Que penseriez-vous dans ce cas de cette jolie petite horloge française, surmontée d'une figurine de la liberté écrasant l'hydre du despotisme?
Ah, voilà exactement ce qu'il me faut. Apprenez-moi comment elle explose.
Ah, ceci reste mon secret. Dites-moi seulement quand vous désirez qu'elle éclate et je réglerai le mécanisme pour le indiquer.
Expédiez-la de façon à ce qu'elle soit remise au doyen demain soir ou jeudi matin. Quant au moment de l'explosion, fixons-le à vendredi midi. À cette heure-là, le doyen est toujours à la maison.
Votre mère est inquiète, Lord Arthur. Elle affirme que vous êtes d'une étonnante nervosité depuis quelques jours. Et il semble en effet qu'elle n'exagère pas. Quelques graves soucis vous tourmentent-ils? Dans ce cas, vous devriez lui en faire confidence.
Je vous remercie, mais en vérité, il n'y a rien, je vous assure.
Eh bien, j'en suis ravie. À propos, puisqu'il paraît que vous vous inquiétez beaucoup du vieil oncle de Chichester, je vais pouvoir vous satisfaire.
Vous avez appris quelque chose le concernant?
Sa fille, la petite Jeanne, m'a écrit 2 longues pages fort intéressantes. Jugez-en vous-même. Voici la lettre.
Je préfère vous l'entendre lire. Je déchiffre mal l'écriture de Jeanne.
Puisque vous le désirez. Le doyenné Chichester, samedi. Je vous remercie beaucoup de la flanelle, etc., etc. Ah, j'en arrive au meilleur passage. Nous avons eu une bonne histoire au sujet d'une petite pendule qu'un admirateur inconnu a envoyée à papa jeudi dernier. Elle est arrivée de Londres, port payé, dans une caisse de bois, et papa pense qu'elle a été expédiée par quelques lecteurs de son remarquable sermon « La licence est-elle la liberté ?» car la pendule est surmontée d'une figure de femme avec ce qu'on appelle un bonnet phrygien sur la tête. Parker a dépaqueté l'objet et papa l'a placé sur la cheminée de la bibliothèque. Nous étions tous assis dans cette pièce vendredi matin, quand au moment même où la pendule sonna midi, nous entendîmes comme un bruit d'aile, une petite bouffée de fumée sortit du piédestal de la figure et la déesse de la liberté tomba et se cassa le nez sur le garde-feu. Maria était tout en émoi. Mais c'était vraiment une aventure si ridicule que James et moi, nous avons fait une bonne partie de rire. Papa même faisait chorus. Il a néanmoins déclaré que c'était une pendule trop bruyante pour demeurer dans la bibliothèque. Reggie l'a donc emportée à l'école. Et là, elle continue à produire de petites explosions tout le long de la journée. Pensez-vous qu'Arthur aimerait un cadeau de noces de ce genre ? Je suppose que cela doit être tout à fait à la mode à Londres. Papa déclare que ces horloges sont propres affaires du bien, car elles montrent que la liberté sans assise solide n'est pas durable et que son règne doit finir par une chute. Papa vous envoie toutes ses amitiés, etc., etc. Cher Lord Arthur, vous avez écouté cette histoire d'un air si sérieux et si malheureux que je ne vous communiquerai plus jamais de lettres de jeune fille. Mais quant à la pendule, cela me semble une innovation si curieuse que j'aimerais en avoir une semblable.
Je n'ai réellement pas grande confiance dans ces horloges.
Ne te décourage pas, Lord Arthur. Tes intentions étaient bonnes, tes efforts louables. Lady Clementina n'a pas été empoisonnée. Le pasteur a été épargné. Soit. Mais tu réussiras. Persévère, Lord Arthur. Tu regardes la Tamise. Tu penses qu'il est 2 heures du matin et que ce serait bien facile de noyer avec toi ton souci dans l'eau sombre. Songe à Sibylle, Lord Arthur. Persévère. Un jour, tu seras libre, libre, libre.
Libre.
Lord Arthur, regarde cet homme penché sur le parapet, au-dessus du fleuve. Tu le reconnais? C'est Monsieur Podgers, le chiromancien, celui qui a troublé ta quiétude. Monsieur Podgers, Lord Arthur, comprends-tu ?
Oui.
Ciel, au secours !
Et voilà, Lord Arthur, c'était si simple. On ne le voit même plus. Il doit avoir déjà coulé. Il y a seulement son chapeau qui flotte drôlement sur l'eau.
Mais n'est-ce pas lui que j'aperçois là-bas montant l'escalier ?
Mais non, c'est un effet de la lune.
Auriez-vous laissé tomber quelque chose dans l'eau, monsieur ?
Oh, rien d'important, sergent, merci.
Lord Arthur, dans 7 jours exactement, Sibylle Merton deviendra Lady Arthur Saville. N'êtes-vous pas impatient d'en arriver là ?
Follement impatient, bien entendu, Lady Windermere, car à présent, je suis certain de mon bonheur.
Comment à présent ? Ne me dites pas que vous en avez douté un jour, ou je fais savoir à tout Londres que l'adorable chère Sibylle épouse le dernier des voyous.
Il s'agit d'un terrible drame de conscience où Sibylle n'est pour rien, je vous assure.
Ah, c'est heureux ! Dites-moi donc, avez-vous lu la Gazette de Saint-James de ce matin ?
Non, pourquoi ?
On annonce que le malheureux Podgers, vous savez, mon chiromancien, s'est noyé. Il s'est jeté dans la Tamise. Le jury du coroner a conclu au suicide. S'il faut en croire certains, Podgers était devenu particulièrement sombre depuis quelques jours. Oh, c'était un affreux bonhomme. Figurez-vous qu'il avait cherché à me soutirer de fortes sommes d'argent et qu'il a osé me faire la cour. Pour ma part, je ne le recevais plus. Et la télépathie me semble à présent tellement plus amusante que la chiromancie. La duchesse de Paisley prétend qu'en tant que chiromancien, Podgers avait probablement vu la date de sa mort dans sa propre main.
Cela me semble très possible, en effet.
Oh, Vous n'êtes pas assez naïf, je suppose, Lord Arthur, pour croire à la chiromancie, aux lignes de la main et à toutes ces balivernes.
Bien entendu, j'y crois, Lady Windermere. J'y crois très fermement.
Oh, quel enfantillage! En vérité, Lord Arthur, je vous croyais plus sérieux que cela.
Oscar Wilde vous a invité au crime de Lord Arthur Saville, en compagnie de Jean Rochefort, Henri Virlogeux, Pascal Mazzotti, Émile Noël, Louis Perdoux, Georges Carmier, Bernard Musson et Suzanne Serge, Marthe Ornus, Jacqueline Joël, Gabriel Doulcet, Luce Bunet. Assisté par Albert Laracine, Jean Parantoine, Louis Boson. Réalisation, Arlette Dave.
Cette dramatique a été diffusée pour la première fois sur la chaîne nationale le 23 mai 1959. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.
It's over, all over. And soon somebody else will make a fuss about you. But how about me? It's over, all over. And soon somebody else will tell her friends about you, but how about me? You'll find somebody new, but what am I to do? I'll still remember you when you have forgotten. And maybe a baby will climb upon your knee and put its arms about you. But how about me? Its arms about you, but how about me? It's over, but how about me?